Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon pour moi.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Hello, il est 6h avant minuit, c'est Lafken. Et oui, on change beaucoup d'animation en ce moment, mais rassurez-vous, la voix d'Héloïse sera bientôt de retour sur nos ondes. En attendant, vous passez cette dernière émission de 6h avant minuit de la semaine avec moi. Et si chez vous, vous avez un chien, un chat ou comme moi, des phasmes, eh bien sachez que le Brésil a trouvé la solution pour qu'il et elle ne soient plus un problème lors des ruptures. Aujourd'hui, le Parlement brésilien a voté la garde partagée pour les animaux de compagnie. Et attention, c'est très sérieux, l'animal doit avoir passé plus de la moitié de sa vie au sein du couple, la garde ne sera pas accordée en cas d'antécédent judiciaire. Bref, le Parlement brésilien a avancé que là-bas, les animaux sont de véritables membres de la famille, tandis qu'en France, eh ben, vos boules de poils sont presque juste des biens, des objets. Ce qui est toujours mieux, soit dit en passant, que les phasmes, que la moitié d'entre vous considèrent sûrement juste comme des bâtons qui bougent. Et on reste dans la thématique végétale. Le vendredi 10 avril à 21h, le cabaret botanique va accueillir le festival Mythos lors d'une soirée bien déjantée. Bonne nuit, Ento et LB aka Labatt y seront en concert. Et si Lab vous propose de remporter une place, pour jouer et pour tenter de gagner, vous connaissez les consignes, rien de plus simple. Rendez-vous sur c-lab.fr et entrez le mot de passe « mélatonine ». Le festival Mythos, on en parle tout à l'heure, mais juste avant, le flash de Baptiste.
À l'âge de pierre, lors d'une allocution télévisée depuis Washington, Donald Trump a promis de frapper très durement l'Iran dans les 2 à 3 semaines sans proposer d'issue diplomatique au conflit. Conséquence directe, la fermeture du détroit d'Hormuz a fait flamber les prix du carburant et menace l'économie mondiale, alors que Trump minimise en parlant de simples fluctuations à court terme. Dans le même temps, Israël a été visé par des salves de missiles iraniens. Un rapport accablant de Human Rights Watch révèle qu'au Burkina Faso, l'armée de la junte, ses milices alliées et un groupe armé lié à Al-Qaïda ont tué plus de 1800 civils et déplacé des dizaines de milliers de personnes depuis 2023. L'organisation accuse clairement les forces gouvernementales de mener un nettoyage ethnique contre les communautés Peul, qualifiant ces atrocités de crimes contre l'humanité et demande à la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête et aux partenaires internationaux dont l'Union européenne et les États-Unis de sanctionner les commandants identifiés. Cette nuit, depuis la Floride, 4 astronautes, 3 Américains et 1 Canadien ont décollé à bord d'Artemis 2. Leur mission, survoler la Lune, une première en 52 ans. Depuis la dernière mission Apollo en 1972, Florine nous décrypte tout cela.
Ce matin, la NASA a envoyé 4 astronautes aller faire le tour de la Lune. Un moment historique scruté en direct sur toutes les chaînes du monde entier. Dans la nuit du 1er au 2 avril, à minuit 24, heure française, depuis le centre spatial Kennedy en Floride, la fusée SLS de la NASA a décollé sous les caméras du monde entier. À bord de ce titan de métal de 98 mètres de haut, 4 astronautes. Les Américains Reid Hissman, le commandant, Victor Clover, le pilote, Christina Koch, l'ingénieur et enfin le Canadien Jeremy Hansen. Tous 4 direction la Lune. C'est la première fois depuis plus de 50 ans que des humains s'aventurent en direction de la Lune. La dernière fois, c'était Apollo 17, en décembre 1972. Reid Hissman, le commandant, a résumé la portée du moment à NBC avant le décollage. On a toujours regardé la Lune en se disant « on y allait ». Maintenant, la nouvelle génération va regarder la Lune et se dire « on y est ». Un détail important, ils n'atterriront pas sur la Lune cette fois-ci. La mission Artemis 2 est un vol test de 10 jours. L'équipage va tourner autour de la Lune pour valider les systèmes en conditions réelles, tester la survie à bord, les communications avec la Terre et la capacité à réagir face à l'imprévu. Puis ensuite, on rentre sur Terre, car le vaisseau Orion qui les mène vers la Lune n'a jamais encore transporté d'humains. C'est donc un petit pas pour l'humanité cette fois-ci, pas encore, mais plutôt un grand tour de reconnaissance. L'équipage est lui-même historique. En effet, c'est la première fois qu'une femme, qu'un Afro-Américain et qu'un non-Américain s'approchent de la Lune. Les astronautes d'Apollo étaient tous des hommes blancs américains. C'est un petit geste pour la NASA, mais un grand pas pour l'inclusivité. Derrière le symbole, il y a aussi une course plus géopolitique. Cette mission se déroule sous la pression de la Chine, qui ambitionne de fouler le sol lunaire d'ici 2030. La NASA, elle, avec les États-Unis, vise 2028. Sauf qu'il manque encore une pièce essentielle, l'alunisseur. Toujours en développement chez SpaceX et Blue Origin, les entreprises d'Elon Musk et Jeff Bezos. Et pour finir sur une note très humaine, CNN relève que quelques minutes après le décollage, les équipes ont découvert un problème avec le seul WC à bord de la capsule Orion. 4 astronautes, 10 jours et un espace de vie aussi grand qu'un appart étudiant du Crous et des toilettes en panne. Ça, Apollo ne vous l'avait pas montré. Rendez-vous dans 10 jours pour l'amérissage dans le Pacifique et prochaine étape, si tout se passe bien, se poser sur la Lune en 2028.
Merci Florine. L'eurodéputé de la France Insoumise, Rima Hassan, a été placé en garde à vue ce jeudi 2 avril 2026 à Paris dans les locaux de la police judiciaire pour apologie du terrorisme. Cette procédure fait suite à un tweet publié le 26 mars dans lequel elle citait Kozo Okamoto, un ancien militant japonais impliqué dans l'attentat de l'aéroport de Lod en 1972 ayant fait 26 morts. Selon les informations révélées dans l'après-midi, les enquêteurs auraient également découvert quelques grammes de drogue dans son sac, ce qui a entraîné une seconde procédure pour usage et détention de stupéfiants. La publication litigieuse a depuis été supprimée par l'eurodéputé. L'audition se poursuit actuellement au pôle national de lutte contre la haine en ligne. Macron prend la parole concernant l'OTAN. Depuis Séoul, Emmanuel Macron a accusé Donald Trump de vider l'OTAN de sa substance en créant le doute sur son engagement, estimant qu'il faut être sérieux et ne pas dire chaque jour le contraire de ce qu'on a dit la veille. Pendant ce temps, la guerre au Moyen-Orient profite au groupe français Total Energy, sa filiale de négociation basée à Genève, à spéculer sur la fermeture du détroit d'Hormuz et réaliser un profit de 870 millions d'euros en achetant massivement avant les bombardements. Deux sujets qui illustrent, selon l'Élysée, l'urgence d'une souveraineté européenne aussi bien sur le plan militaire qu'énergétique. Ils et elles ne lâcheront rien. Ce matin, à 8h30, plusieurs parents d'élèves de l'école Élise et Célestin Freinet, dans le quartier prioritaire du Blône, se sont réunis pour protester contre une fermeture de classe conditionnelle. Aurélie Massé est parent élu de l'école et également coprésidente du syndicat des parents Front de Mer.
On est dans une école à spécificité, c'est-à-dire que comme on est en pédagogie freinée, on a des enfants qui viennent de d'autres endroits. Actuellement, c'est des classes de 21-22 enfants. Il y a déjà beaucoup de difficultés. Et si jamais il y a une fermeture de classe, ça, fera des classes surchargées avec des enfants qui ont des besoins spécifiques, vraiment. En fait, depuis le début de la semaine, on est mobilisés. La semaine dernière, déjà, on a rejoint les enseignants et syndicats lors de la première commission. Comme il y a cette fermeture conditionnelle, on s'est mobilisé dès lundi matin avec des actions tous les matins pour bloquer l'entrée de l'école et expliquer aux parents que nous étions contre cette fermeture de classe tous ensemble en tant que parents. Et on a écrit une chanson, on a fait un jeu mercredi matin pour expliquer les différences entre les écoles du centre-ville et les classes en quartier prioritaire. Et ce matin, en plus des médias, nous avions invité également Madame Gaëlle Rougier, l'élue à l'éducation, qui est venue nous soutenir. Et nous avions aussi écrit au DAZEN, donc le directeur académique, et du coup il a ce matin envoyé pour nous rencontrer une inspectrice pour pouvoir voir quelles étaient nos demandes. Donc là voilà, on se bat pour que nos enfants puissent avoir un cadre et des conditions d'apprentissage qui soient satisfaisants, voilà.
Un contexte de crise pour l'éducation nationale à Rennes comme dans le reste du pays. Ça vaut le détour. Les 11 et 12 avril 2026, Rennes accueille la première édition gratuite du Festival des médias indés au Lavoir et au Théâtre pour défendre la liberté d'informer face à la concentration des médias. Au programme, un village avec 50 médias indépendants, des rencontres, des expositions et surtout un plateau radio coordonné par la Core Lab et animé par Canal B. Ouvert au public, entrée libre samedi de midi à 19h et dimanche de 10h à 17h. Venez échanger avec les journalistes et soutenir la presse libre. La déconstruction du parking Vilaine est à mi-parcours. La moitié des 270 mètres de dalles a été retirée et la Vilaine réapparaît désormais à ciel ouvert sur 150 mètres, du côté de la rue Langevinet. Une nouvelle passerelle de 25 mètres reliera bientôt les quais Lamennais et Duguay-Trouin, tandis qu'une promenade flottante de près de 200 mètres permettra de marcher à fleur d'eau, fin du chantier prévu fin mai, début juin 2026, avant le début des travaux de réhabilitation de la dalle République qui va se transformer en grande pelouse surélevée avec vue plongeante sur le fleuve.
Merci Baptiste pour ton flash et pour nous, place à l'interview.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Vêtu d'un haut rose et noir, notre invité incarne depuis plusieurs années l'esprit d'un festival pas comme les autres, à la croisée des récits, des musiques et des imaginaires. Elle dirige aujourd'hui l'un des rendez-vous culturels incontournables du printemps rennais, le Festival Mythos. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Émilie Audrin, directrice du Festival Mythos. Avec elle, nous reviendrons sur la programmation de cette édition, les actualités du festival, mais aussi sur les enjeux qui traversent le monde associatif et culturel aujourd'hui. Bonjour Émilie, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci à vous.
Pour commencer, pouvez-vous nous présenter le Festival Mythos pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore ?
Alors, comment le décrire ? On va dire que c'est une vingtaine de lieux sur la métropole et au-delà. On va jusqu'à Liffré, Bécherel, quelques théâtres, hein, le TNB, l'Opéra, quelques théâtres dans Rennes. Et puis un poumon, le Tabor, donc le parc du Tabor, qui est un grand parc au centre-ville de Rennes, avec trois chapiteaux. Deux chapiteaux en bois, le fameux cabaret botanique qui va accueillir des concerts pendant 10 jours. Et puis la fameuse scène Capéos, qui est en entrée libre, où on propose des concerts de 15h à 2h du matin, pendant 10 jours également, en entrée libre.
Quelle est l'identité du festival aujourd'hui ?
L'identité, c'est de raconter des histoires. Ça a toujours été ça. Au départ, c'était un festival de contes. Et puis aujourd'hui, c'est devenu un festival qui aborde toutes les thématiques sociétales autour de la musique, du théâtre, de la poésie, du culinaire aussi, puisqu'on aime bien manger. On aime bien boire un verre. Donc l'idée, c'est de se rassembler. Donc c'est une identité conviviale, intergénérationnel pour toutes et tous.
Depuis plus de 20 ans, Mythos fait dialoguer la parole sous toutes ses formes, littérature, chanson, théâtre ou encore poésie. Pourquoi avoir choisi de mêler différentes formes artistiques ?
C'est le reflet vraiment de ce que les artistes portent aujourd'hui. Et puis, ça a toujours été un combat, entre guillemets, pour ne pas rester dans des cases. Quand on est au théâtre, on est au théâtre en France. Quand on est en musique, c'est soi-disant très rock'n'roll. Et on s'est toujours amusé en fait, de changer, de casser les codes et de mélanger un peu tout ça. Et c'est vrai qu'au tout début du festival, j'étais étudiante hein, quand on a monté ce festival. C'est vrai que les artistes conteurs, les théâtreux adoraient rencontrer le milieu de la musique. Et inversement, le milieu de la musique aimait aussi rencontrer des gens qui ne côtoyaient pas.
Et comment se construit la programmation d'une édition ?
C'est vraiment tout au long de l'année. On va avoir beaucoup de spectacles, on rencontre beaucoup de compagnies, d'artistes, de musiciens, musiciennes. Et puis, il n'y a pas de fil conducteur. Et finalement, quand on met... Donc, on est un collectif hein, qui fait la programmation, même si c'est au bout du compte moi qui la signe. C'est de se dire... avec quoi qu'est-ce qui nous reste en fait dans la tête on met tout ça à plat et puis on s'aperçoit qu'on tire en fait finalement des fils où il y a toujours des enjeux de société très forts, d'anti-discrimination, de lutte, la parole aux femmes, aux laissés pour compte. Il y a toujours quelque chose qui, même si c'est pas quelque chose que, c'est quelque chose que je défends évidemment, mais c'est pas, je me dis pas je vais aller chercher des spectacles sur cette thématique, mais quelque chose de très sensible et d'assez intuitif en fait.
En parlant de thématiques, quels sont les grands thèmes de l'édition 2026 ?
Je pense à un spectacle qui s'appelle Nelvar, qui joue ce week-end au Théâtre du Vieux-Saint-Etienne, qui dure 3 heures. Et là, j'invite vraiment tout le monde. Il reste encore quelques places, 30 places par soir, samedi et dimanche. Et c'est du théâtre qui donne envie d'aller au théâtre. C'est le Game of Thrones du théâtre. J'appelle ça comme ça puisque c'est une épopée avec 5 comédiens, comédiennes. Et c'est l'idée du vivre ensemble puisqu'ils vont prendre tous les archétypes de l'elfe. Hein, c'est vraiment l'écriture de l'heroic fantasy. Et puis, on va s'apercevoir que de façon très contemporaine, ils vont caricaturer, on va dire, les catégories de la société en fait, que nous représentons pour essayer de créer quelque chose, un espèce de monde meilleur. Alors, c'est pas utopiste, hein, c'est assez réaliste quand même. Mais je trouve que là, c'est un fond, en tout cas, de tenter de vivre ensemble et d'enlever, en tout cas, les barrières les barrières qui nous empêchent, en fait, d'aller vers l'étranger ou celui qui nous connaît pas ou qui ne ressemble pas. Ça, c'est une grande thématique. Il y a une autre thématique qui est contre les discriminations, hein. Je pense à un spectacle qui s'appelle Quand on dort, on n'a pas faim, qui est un conte médiéval afro-queer qui joue 3 jours la semaine prochaine. Et là, c'est un étudiant qui nous raconte en fait comment il a lutté toute sa vie. Il avait des archétypes blancs français, lui est d'origine africaine, et il va nous raconter en tout cas comment est-ce qu'il a lutté et comment est-ce qu'il a cherché son identité. Donc la question de la quête de l'identité est très au cœur aussi des propositions théâtrales sur Mythos cette année.
Comment vous trouvez l'équilibre entre artistes émergents et artistes déjà reconnus ?
Bah, ça c'est vraiment, c'est pareil, c'est intuitif, c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a... important en tout cas qu'il y ait cette transmission, de la même manière qu'aujourd'hui j'essaye de ne pas vieillir trop, de ne pas faire vieillir mon festival en même temps que moi. Je travaille aussi avec des jeunes gens, avec des gens d'une autre génération, donc l'idée c'est de leur passer la main. Bah, de la même manière, ils vont s'intéresser aussi à d'autres formes artistiques que les miennes. Et c'est toujours de tenter de faire un lien en tout cas entre la nouvelle génération et puis des choses qui sont déjà reconnues, qui brillent déjà un peu. C'est vrai que le public a aussi envie d'aller voir des choses qui sont connues, mais aussi de découvrir. Et puis, des fois, la découverte, elle est plus dure que d'aller voir des choses connues. Donc, il faut savoir faire ce mélange pour attirer. On va dire que les grands artistes sont des appâts. Je les ai toujours appelés comme ça pour découvrir, en fait, des choses assez merveilleuses qu'on n'irait pas voir naturellement.
Et vous parlez de votre public. Comment le public, il a évolué ces dernières années ?
Je disais justement, on a fait en sorte que le festival ne vieillisse pas en même temps que nous, hein, puisque c'est un festival c'est la 29e édition. Donc je ne demande pas de faire le calcul, mais en tout cas, on était étudiants. Et depuis quelques années, on a ouvert aussi à de jeunes collectifs la programmation. Donc soit eux programment, soit on leur propose une carte blanche. Et donc je dirais que c'est juste après le Covid, hein, donc ça fait vraiment 3-4 ans qu'on a eu aussi cette fameuse scène ouverte. Je parlais de la scène Capéos qui est en entrée libre, avec de vrais concerts, des vraies propositions ambitieuses, locales aussi. Donc comment est-ce qu'on fait de la place en fait aussi aux jeunes gens. Et c'est comme ça que le public finalement s'est rajeuni, et puis on a gardé notre public historique, donc il y a une sorte de dans ce parc en fait, il y a un mélange assez surprenant, mais pour une ville comme Rennes qui ressemble à la ville de Rennes en fait, qui est assez cosmopolite quand même.
Derrière la scène, il y a aussi une association, des équipes, des bénévoles et tout un écosystème culturel qui doit aujourd'hui composer avec de nombreux défis. Mythos est porté par une association. Comment fonctionne l'organisation au quotidien ?
L'organisation au quotidien, c'est une vingtaine de personnes, en ce moment c'est plutôt 35-40, qui œuvrent toute l'année pour porter le projet culturel de l'association. Donc l'aboutissement, c'est le festival pendant 10 jours, mais il y a énormément d'actions culturelles, de projets qu'on fait aussi dans les écoles ou avec des groupes spécifiques. Et puis il faut de l'administration, de la production, de la communication. De l'action culturelle. Donc finalement, au quotidien, c'est une équipe qui arrive au bureau à 9h du matin, qui part à 18h et qui travaille en fait tous ces aspects-là pour imaginer une grande fête, si je puis dire, une grande réunion en tout cas pendant 10 jours et 10 nuits. Ouais.
On sait que le monde associatif est un peu compliqué. Comment se porte aujourd'hui l'association ?
L'association se porte plutôt bien puisqu'on a, je pense, gérer une association. On s'est toujours senti aussi comme des chefs d'entreprise, c'est-à-dire qu'on a une responsabilité à l'égard des salariés qu'on a à l'année, mais aussi de toutes les activités qu'on porte à l'année. Donc on a réussi à avoir ce qu'on appelle des fonds propres qui sont présents sur le festival, enfin sur l'association. Par contre, on est, c'est vraiment un cri d'alerte. Hein. On a des financements publics qui baissent, un secteur économique qui est en tension aujourd'hui, donc des partenaires privés qui nous suivent, mais qui, pour qui c'est dur aussi. Donc on a des baisses de budget, et puis de recettes en tout cas, et puis toujours des augmentations de dépenses. Donc c'est vrai que depuis quelques années, on a plutôt un festival qui est en léger déficit, malgré, j'ai envie de dire, 98% de remplissage, on ne peut pas faire beaucoup mieux en termes de recettes, donc c'est inquiétant. Et c'est vrai que c'est inquiétant pour beaucoup de festivals. Donc il faut trouver les ressorts pour imaginer, je pense, quelque chose qui soit peut-être plus adapté. Donc on réfléchit, on travaille, on fait des tests. Donc là, on vous attend nombreux et nombreuses pour venir soutenir et puis surtout passer un bon moment.
Si vous deviez résumer cette édition en trois mots, que diriez-vous ?
Je dirais convivialité, engagement et puis gaieté quand même, parce qu'on en a besoin dans ce monde dans lequel justement on doit s'engager, mais ce monde qui nous entoure, qui est dur aujourd'hui. Donc si on peut offrir une espèce de bulle de gaieté en ayant conscience des enjeux qui nous attendent, ce serait quand même super.
Où peut-on retrouver toutes les informations pratiques ?
Sur le site du festival, hein, festival-mythos.com. Là, vous avez toutes les... Et puis, on vous accueille au Tabor, parce que c'est quand même chouette de parler aux gens. Donc, pour vous conseiller sur la programmation, notamment théâtre, et la programmation musique. Donc, tous les jours, hein, de 10h à 23h, il y a un accueil public. Mais autrement, tout est sur le site, avec des questions aussi, une rubrique en tout cas, avec une foire aux questions, où on peut avoir pas mal de réponses.
Est-ce qu'il y a des événements que vous attendez particulièrement ?
Les événements, en tout cas, c'est cette fameuse ouverture, cette nouvelle scène Capéos en entrée libre, où cette année, l'année dernière, on avait proposé quelque chose d'assez immersif avec de la vidéo à l'intérieur de la tente. Cette année, c'est une tente entièrement cristal et on fait de la lumière à l'extérieur, dans les arbres. Donc ça, j'ai hâte de la découvrir demain soir.
Merci beaucoup, Émilie Audrin, d'avoir pris le temps de nous parler du Festival Mythos, de sa programmation et des réalités du monde associatif qu'il fait vivre. On le rappelle, le festival se déroule à partir de demain à Rennes, avec une programmation riche de spectacles, concerts et rencontres autour de la parole sous toutes ses formes. Et nous serons, nous aussi, au cœur du festival avec les radios de la Corlab au Tabor, le mercredi 8 avril, pour une émission spéciale en direct du festival, diffusé à 18h sur Syllab à la place de Cham. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et très belle découverte du Festival Mythos.
Et merci Milia pour cette interview.
6h avant minuit.
6h avant minuit.
C'est un moment très attendu par tous les fans du groupe BTS, le comeback de BTS Arirang. Et pour en parler ce soir, elle fait aussi son grand retour sur nos ondes. Elisa et sa chronique K-pop, dis-nous tout.
C'est sûrement le boy group le plus connu de nos jours et il est de retour. BTS, le groupe de K-pop composé des 7 membres RM, Jimin, T-Hope, Suga, Jungkook, V et Jin, reviennent pour le plus grand bonheur des fans, les ARMY. Après plus de 3 ans et demi de pause pour leur service militaire, ils sont revenus avec leur 5e album studio intitulé Arirang. Arirang, c'est en fait un chant traditionnel coréen qui parle de faire des efforts pour obtenir ce que l'on veut. L'album est composé de 14 titres. Chaque chanson a son propre style, passant d'énergétique à plus mélancolique. Les paroles sont principalement en anglais, ce qui a un peu déçu les ARMY, mais le leader du groupe, RM, a précisé que lui et les membres auraient aussi souhaité plus de coréen dans l'album. Malheureusement, ils ont été contraints par leur agence de faire des titres principalement en anglais pour toucher le public international. Parmi les 14 titres, deux ressortent. Body to Body, que tout le monde a l'air d'aimer et dans lequel on peut entendre justement le chant traditionnel Arirang, est le titre principal de l'album intitulé Swim. La chanson est accompagnée d'un magnifique clip vidéo tournait sur un voilier à Lisbonne en compagnie de l'actrice Lily Reinhart. Une autre chanson, ou plutôt devrais-je dire interlude, fait aussi parler d'elle parce qu'elle est presque entièrement silencieuse. Au début du titre No 29, pardon, on entend le son du 29e trésor national, la cloche sacrée du roi Sangtok. Elle résonne tout du long du morceau. Et même avec un interlude presque silencieux, l'album bat tous les records. Le clip de Swim a atteint plus de 5 millions de vues en une heure, et aujourd'hui, c'est-à-dire environ deux semaines plus tard, on est proche des 85 millions de vues. Arirang a cumulé le plus grand nombre de streams en une journée pour un album sorti cette année sur Spotify, et il s'est vendu à plus de 3,98 millions d'exemplaires dès le premier jour. Avec l'album studio, BTS avait également prévu d'autres cadeaux aux fans, comme un concert gratuit en plein centre de la capitale sud-coréenne Séoul, qui a d'ailleurs aussi établi le record du plus grand concert public jamais organisé en Corée du Sud, avec plus de 250 000 spectateurs. Le concert a été retransmis en direct sur Netflix, avec un documentaire sur les coulisses de la création de l'album. Une tournée mondiale de 82 dates passant par Paris est aussi prévue pour 2026 et 2027. Mais malheureusement, toutes les places sont déjà épuisées depuis un moment. Le groupe attire des milliers de fans étrangers en Corée à chaque concert. C'est un très grand atout économique pour la Corée du Sud qui profite largement de leur succès. Leur importance est tellement grande que la plupart des entreprises sud-coréennes ont forcé leurs employés à prendre un jour de congé pour la sortie de l'album. Personnellement, je trouve que leur comeback est vraiment réussi avec de nombreux genres présents dans les différentes chansons et le concert et le documentaire sur Netflix.
Merci Elisa pour cette chronique musicale, en espérant que grâce à toi, je puisse enfin convertir toute la rédac à la K-pop par pitié. Est-ce que tu nous dis si on a quelque chose sur le répondeur ?
Je ne sais pas.
On regarde.
Le téléphone.
Allô ? Allô ?
Syllab, la radio sauvage.
Eh bien, malheureusement, nous n'avons rien sur le répondeur aujourd'hui.
Trop nul, mais venez laisser des messages. Ici, on parle FASM, fusée, culture, FASM, K-pop et aussi de FASM. Allez, je vous redonne le numéro. C'est 02 30 96 25 35. Je le redis, 02 30 96 25 35. Merci Maud pour la technique. À demain dans 6 heures avant minuit.
Exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure 7.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.